Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 22 janvier 1963, l'amitié franco-allemande est consacrée par le traité de l'Élysée. Le 14 septembre 1958, à Colombey-les-Deux-Églises, modeste village de la Haute-Marne, se déroule une rencontre historique. Charles de Gaulle, président du Conseil des ministres français, accueille dans sa résidence privée de la Boisserie Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale allemande. Les ministres des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville et Heinrich von Brentano, se voient à la préfecture de Chaumont. Le tête-à-tête de Colombey-les-Deux-Églises constitue un pas essentiel vers la réconciliation franco-allemande. Adenauer, chrétien démocrate, maire de Cologne avant la Seconde Guerre mondiale, s'est opposé au nazisme. Destitué de ses fonctions municipales, il se réfugie un temps dans un monastère avant de connaître la prison brièvement une première fois en 1943, puis plus longuement en 1944. Élu chancelier le 15 septembre 1949, il gouverne la République fédérale allemande jusqu'à sa démission, le 15 octobre 1963. Au sortir de l'épreuve du nazisme, il ancre son pays dans une Europe démocratique. Dès 1951, il implique l'Allemagne fédérale au sein de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, consacrée par le traité de Paris. 6 ans plus tard, il compte parmi les signataires du traité de Rome, qui fonde la Communauté économique européenne, la CEE. Enfin, en 1954, il adhère à l'idée avortée de la Communauté européenne de défense, la CED, avant de favoriser l'année suivante la participation de Bonn à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. De Gaulle est au fait de son pouvoir. L'ancien officier, chef de la France libre, après sa traversée du désert durant laquelle il fonde le Rassemblement du peuple français, le RPF, est rappelé aux affaires le 1er juin 1958, dans une France troublée par le drame algérien. Ultime président du Conseil de la 4e République, il devient aux prémices de l'année 1959 le premier président de la 5e République. Au terme de leur rencontre intime et conviviale, De Gaulle et Adenauer sont convaincus de la nécessité de cheminer ensemble vers la consécration de l'amitié franco-allemande. Les rencontres se succèdent. Le 26 novembre 1958, les deux chefs de gouvernement se retrouvent dans la station thermale de Bad Kreuznach en Rhénanie-Palatinat. Le 25 mars 1959, De Gaulle affirme lors d'une conférence de presse que la réunification est, je cite, « le destin normal du peuple allemand ». Le 1er et 2 décembre, Adenauer est reçu à Paris. Il est également invité à Rambouillet du 29 au 30 juillet 1960. De Gaulle se déplace à Bonn le 20 mai 1961. Du 20 au 23 juin, Heinrich Lübke, président de la République fédérale allemande, effectue une visite officielle en France. Les échanges s'intensifient durant l'année 1962. De Gaulle et Adenauer se voient le 15 février à Baden-Baden et le 2 juin au Palais de l'Élysée. La première semaine de juillet est consacrée à une grandiose visite officielle du chancelier allemand en France. Elle culmine le 8 juillet avec la messe célébrée en la cathédrale de Reims, tant meurtrie durant la Première Guerre mondiale. Adenauer y prononce une allocution dont il convient de retenir les phrases suivantes. « Nous sommes persuadés que les dangers provoqués par la situation de par le monde ne seront surmontés qu'au moment où les peuples libres seront unis et solidaires. » Cela dans une mesure toute particulière pour ces deux peuples qui se trouvent placés l'un près de l'autre au cœur de l'Europe. Enfin, du 4 au 9 septembre, de Gaulle va à la rencontre du peuple allemand. Au terme de son séjour, il s'adresse à la jeunesse au château de Ludwigsburg par ces mots. L'avenir de nos deux pays, la base sur laquelle peut et doit se construire l'union de l'Europe, le plus solide atout de la liberté du monde, c'est l'estime, la confiance, l'amitié mutuelle du peuple français et du peuple allemand. L'aboutissement de ce long et fructueux parcours survient à Paris, le 22 janvier 1963. De Gaulle et Adenauer signent le traité de l'Élysée, complété par une déclaration commune affirmant la réconciliation du peuple allemand et du peuple français. Il établit un rythme de rencontres et crée des organes communs propres à renforcer encore la coopération franco-allemande. Il est prévu que les chefs d'État et de gouvernement se voient chaque fois que cela sera nécessaire et en principe au moins deux fois par an. Les ministres des Affaires étrangères se réunissent chaque trimestre et leurs hauts fonctionnaires régulièrement à Paris et à Bonn. Il est également indiqué que les autorités responsables de la défense, de l'éducation, de la jeunesse ont des relations régulières. Deux commissions interministérielles spécialisées dans la coopération franco-allemande sont constituées. En matière de défense, les deux pays s'attacheront à rapprocher leurs doctrines. Il est aussi rappelé l'importance des échanges entre les deux armées et le travail commun sur les armements. Dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse, il est prévu de promouvoir l'apprentissage de la langue de l'autre, l'équivalence des titres et diplômes universitaires, la coopération en matière de recherche et les échanges collectifs de jeunes. Cette dernière disposition jette les bases de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAJ. Nous retrouvons Historama dans un instant, précisément la chronique littéraire, Un jour trois livres, qui a été préparée par Emmanuel et que je vous présenterai après une pause musicale. C'est Michel Sardou qui nous accompagne durant cette émission avec un titre de 1968, un de ses tout premiers succès, L'Héricain.
Si l'Héricain n'était pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Bien sûr les années ont passé, les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin? Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un matin où tu n'y étais pas. Bien sûr les années ont passé, on est devenus des copains à l'amicale du fusil. pieds. On dit qu'ils sont tombés pour rien. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire Un jour, trois livres, qui a été préparée par Emmanuel, trois livres d'un même éditeur, Actes Sud. Nous commençons par L'Infante sauvage de Mario Pazza. Voici l'histoire romancée de Madeleine González, connue par un portrait d'elle enfant au XVIe siècle et frappée d'hyperpilosité comme son père. L'auteur a souvent regardé le portrait de la petite Madeleine González, somptueusement vêtue malgré son visage pelu, née à Paris dans les années 1570 et morte en Italie après 1640. Elle eut le privilège d'être dessinée devant Catherine de Médicis. L'auteur l'a fait naître lors du massacre de la Saint-Barthélemy, lui a attribué une relation presque filiale avec Ambroise Paré, lui a infligé la peste à Paris, puis l'ostracisme à Parme, où lui a été imposé un mariage. Par son truchement, c'est toute une époque qui est retracée dans toute son humanité, mais aussi dans toute son atrocité. L'Infante sauvage de Mario Pazza, c'est aux éditions Actes Sud. Toujours chez Actes Sud, Les amants de Montreuil d'Alex Capu. Max et Tina sont coincés dans leur voiture sur un col enneigé des Alpes. Pour passer le temps, Max raconte un fait historique qui prend sa source à cet endroit précis des montagnes. On est à la veille de la Révolution française, une époque de bouleversement et de renouveau en Europe. Jacques, valet de ferme en Gruyère, s'éprend de Marie, fille d'un riche paysan. Le père ne l'entend pas ainsi et fait tout pour se débarrasser de ce valet de ferme. Jacques part faire son service militaire, puis travailler comme vacher au service de la sœur de Louis XVI, Élisabeth, dans son domaine de Montreuil, où elle se consacre aux plus démunis. Mais les deux amants continuent à s'aimer et, apprenant cette situation, Élisabeth fait alors venir la promise à Montreuil. Les amants de Montreuil, c'est signé Alex Capu aux éditions Actes Sud. Et pour terminer cette chronique, Miss Joséphine de Margaret Wilkerson Sexton, c'est aux éditions Actes Sud toujours. Née esclave, Joséphine a fui à l'âge de 10 ans la plantation où elle vivait avec ses parents. En 1924, en Louisiane, désormais septuagénaire, elle dirige une exploitation agricole florissante, mais l'arrivée dans son voisinage d'un couple de blancs l'inquiète. Elle va se lier d'amitié avec Charlotte, une jeune femme blanche, mais le Ku Klux Klan prospère dans la région. Près d'un siècle plus tard, Ava, une descendante métisse de Joséphine, emménage chez sa grand-mère maternelle blanche, qui est fortunée. Le comportement de la vieille dame devient erratique, parfois même agressif. Sans le savoir, le destin d'Ava va converger vers celui de son aïeul. Miss Joséphine de Margaret Wilkerson Sexton, c'est aux éditions Actes Sud. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous quitter avec toujours Michel Sardou. L'un de ses titres les plus connus, c'était en 1983, Vladimir Ilitch.
Un vent de Sibérie souffle sur la Bohème. Les femmes sont en colère aux portes des moulins. des bords de la Volga au delta du Niémen. Le temps s'est écoulé, il a passé pour rien. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé, quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, bénir tous ses fidèles dans son auto blindé. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne ou qu'on envoie mourir aux confins du pays? Toi, Vladimir Ilitch, au soleil d'outre-tombe, combien d'années faut-il pour gagner 4 sous? On connaît le prix qu'on met dans une bombe. Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Où sont passés les chemins de l'espoir? Dans quelle nuit, au fond de quel rien n'a changé, les damnés de la terre n'ont pas trouvé la sortie de l'enfer. Toi qui avais rêvé l'égalité des hommes, tu dois tomber de haut dans ton éternité devant tous ces vieillards en superbe uniforme et ces maisons du peuple dans des quartiers privés. Sois Vladimir Ilitch, si tu es le prophète, viens nous parler encore en plein cœur de Moscou et répand la nouvelle à travers la planète. Amis du genre humain, ils sont devenus fous.
Thank you.